Ce lundi 2 décembre 2024, René-Michel Rudloff et Jacqueline Knecht, aujourd'hui âgées de respectivement 85 et 84 ans, ont témoigné de leurs souvenirs d'enfants pendant la Seconde Guerre mondiale devant une classe de seconde passerelle du lycée Hort de Strasbourg. Leur histoire, les documents et souvenirs compilés rejoignent la grande histoire. Jacqueline Knecht a perdu 2 frères. Elle nous lit une lettre envoyée par l'un d'eux, René, 3 jours avant sa disparition.
Je l'ai traduite en français parce que j'étais obligée d'écrire en allemand. Il marque déjà terre le 5-10-44. Alors terre, c'est parce qu'ils ne savaient même pas où ils étaient. Chers parents, je vous profite pour vous écrire aujourd'hui car il n'y a pas de tir, je suis toujours en bonne santé et que j'espère également pour vous. Hier, j'ai reçu une lettre du 9-9, c'est la première depuis que j'étais en Roumanie. Comme je constate, Raymond, c'est le plus jeune frère, est parti dans les Vosges avec un groupe. Ils ont assez à manger, ça va, ce n'est pas loin. Chère maman, ne te fais pas de soucis pour moi. Tu sais comment c'est la guerre. Cette lettre, j'ai écrite dans le col d'un Alsacien. Nous avons assez à manger parce que les villageois sont partis et les animaux, poules, cochons, oies, se promènent dans les rues. On peut manger ce qu'on veut. Bientôt, la guerre sera terminée. 3 jours après, les Russes sont arrivés. Les animaux se promenaient dans la rue parce que tout le monde était parti. Les gens, les Hongrois, ils savaient que les Russes allaient arriver. Hein. Chers parents, je ne peux écrire que 2 fois par semaine et j'ai également écrit à Germaine, ça c'est sa copine. Hein. Depuis 2 nuits, je dors dans le fossé, mais nous avons l'habitude. Je termine avec l'espoir de vous revoir bientôt. Et 3 jours, les Russes sont arrivés et il n'y avait plus de René. Hein. C'était terminé.
Elle évoque la mémoire et la disparition de son 2e frère, Jacques.
Alors lui, c'était vraiment le résistant. Il a dû aller en Ardèche, dans une prison allemande, donc, où il torturait les prisonniers. Et lui, il devait transmettre ça. Il avait pris, lui, comme interprète, puisqu'il était alsacien, donc parlait allemand. Et donc, il était interprète. Il s'est enfui de là. Il allait à Lamastre. Et il a demandé au maire s'il pouvait monter sur un balcon de la mairie, expliquer à ses Français la mentalité des Alsaciens. Puisque nous, on était allemands, forcément, avec... qu'on n'avait pas demandé, pas du tout. Comme il s'était enfui, il n'avait plus de vêtements. Il avait son uniforme allemand. Et c'est après qu'il est allé du côté de l'Ardèche, à Schellach, et il est devenu chef de 30 résistants. Un jour, les Allemands sont arrivés dans cette ville, une magnifique ville de Schellach. Et ils ont brûlé, alors là, c'était la grosse bataille, beaucoup de morts, bien sûr. Et mon frère a été fait prisonnier. Ils l'ont emmené en Allemagne. Ça, c'était le château de la Châtelaine qui hébergeait les résistants. Alors, ils ont brûlé, ça c'est la photo brûlée du château. Alors, ils l'ont emmené après le lendemain. Et après, ils l'ont transféré à Ingolstadt-Monching, ça s'appelle, en Allemagne.
La lettre d'un jeune de 15 ans à l'époque de la destruction de Schellach, lue par Emiran, élève de seconde.
Un collégien de 15 ans nous raconte la journée tragique du 5 juillet 1944, tel qu'il l'a vécu. Dès le 6 juin 1944, jour où les troupes alliées forçant le barrage de la Manche, ils ont débarqué en France aussitôt. Ma petite ville, le Schellach, fut dès le premier jour un centre assez important de la résistance. L'école publique où habitent mes parents abritait la nouvelle préfecture de l'Ardèche. Dans les châteaux voisins, il y avait le quartier général et les états-majors. Dans les écoles, les infirmeries, des dortoirs avaient été aménagés et même les hôtels étaient remplis d'officiers. Tout le monde était gai et aucun nuage ne semblait devoir assombrir cette joie que nous manifestait. Et pourtant, quand le mercredi 5 juillet, au matin, 2 avions passent, tournent, retournent sur la petite ville, puis partent aussi rapidement qu'ils sont venus de nouveau à midi. Les avions reviennent tournoyer au-dessus de nos têtes. Nous allons, ma mère, mon petit frère et moi, nous abriter sous des acacias. Derrière la maison, soudain, un bruit effrayant nous glace d'effroi. Les Allemands dans leur avion, invulnérables, canonnent la bourgade. Alors, cette fois, j'ai compris, nous sommes environ 80 sous ces acacias. Tout à plat ventre, faisant corps le plus possible avec le soie. Nous attendons à chaque instant à voir nos compagnons tués, broyés par les balles meurtrières. Et là-haut, dans le ciel, les avions continuaient de leur ronde infernale.
Prisonnier en Allemagne, Jacques Knecht sera fusillé le 21 février 1945.
Il y a un monsieur qui arrive en uniforme et m'a dit d'aller jouer dans la cour. Et j'entends ma mère qui commence à hurler. Mais allez, hurler, écoutez, je l'ai dans les oreilles. Ce cri, je l'ai dans les oreilles, il ne sortira jamais, jamais de ma tête. Il venait lui annoncer que Jacques a été fusillé. Le 21 février 1945, alors qu'il savait très bien que le 8 mai prochain, la guerre était terminée. Donc ça c'est... Et ma mère aussi, elle était finie. Hein. Ma sœur avait 19 ans de plus que moi, parce que comme j'étais la plus jeune de la famille, il y a une grosse différence d'âge. C'est ma sœur plus tard qui m'a appris à danser, qui m'a emmenée au cinéma des quartiers à l'époque. À la Robertson, avait cinéma, à Schiltigheim aussi, etc. Donc j'ai beaucoup, c'est ma sœur qui me prenait en charge. Hein.
Et du haut de ses 84 ans, Jacqueline Knecht se souvient de ce jour alors qu'elle n'avait que 4 ans et demi.
Le Noël 44. Aucun de mes quatre frères n'était avec nous. Et j'avais remarqué à 4 ans et demi pourquoi je suis seule avec ma sœur et mes deux parents. Et un jour, il y a un monsieur qui arrive en uniforme et on me dit d'aller jouer dans la cour. Et tout d'un coup, j'entends ma mère hurler. Ce gars, ce monsieur, il venait lui dire que mon frère a été fusillé à 20 ans. Il avait presque pratiquement votre âge. Il avait 20 ans. Donc, c'était horrible. Et ma mère, bien sûr, ne s'est jamais remis de ça. Hein. Ça n'arrête pas un truc comme ça. C'est un deuil qui ne se termine jamais. Elle n'allait plus sortir, elle ne sortait plus, et voilà.
Aujourd'hui, une rue à la Robertsau porte le nom de René et Jacques Knecht et un Stolperstein a été installé devant le domicile familial.
J'ai eu la chance, avec l'ancien maire, qui a donné une rue à mes frères, Jacques et René Knecht. Et là, récemment, ils ont reçu les Stolperstein. Je suis toujours très touchée par les gens qui réalisent des choses comme ça. C'est terrible de vivre ça.
Jacqueline Knecht évoque aussi la mémoire de ses autres frères.
Oui, le plus jeune frère, le troisième. Il a dû aller au Bodensee, au lac de Constance, en Allemagne, dans une ferme pour travailler à la cette ferme. Alors, il était bien traité, c'était des gens normaux, c'était pas des nazis, c'était des gens normaux. Il avait à manger, il a gardé des relations toute sa vie. Il est retourné les voir après-guerre, et eux, ils sont venus ici, il était à un mariage là-bas. C'était vraiment, vraiment, ça existe encore, et ça a toujours existé, mais malheureusement, il y avait aussi des nazis, hein. Ça, c'était terrible. Et le quatrième frère, il était de ces gens qui n'ont jamais parlé de ce qu'ils ont vécu. Il travaillait à la SNCF dans les wagons-lits. Et donc, il a continué à circuler là. Et il habitait à Lyon, là où il y avait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affreux Barbie. Et je pense que c'est ça que mon frère n'a jamais, jamais, pas un mot. Toute sa vie, il est mort sans me dire quoi que ce soit ce qui s'est passé à Lyon.
René-Michel Rudloff, 85 ans.
Quand on m'a demandé d'intervenir, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? Je ne vais pas leur parler de la grande histoire, celle qu'on fait à l'heure actuelle, celle qu'il faut que vous reteniez à tout prix pour savoir ce que signifie la rue du 22 novembre. Pourquoi partout, au lieu d'appeler, comme dans le temps, les rues principales, on les appelle la rue de la division Leclerc. À côté de celle-là, il y a d'autres histoires. Et puis, il y a une micro-histoire qui concerne, en fait, les enfants. Est-ce qu'ils gardent donc une mémoire? Alors, pour moi, la libération, elle est sur 3-4 jours, pas plus que ça. C'est un petit garçon, j'avais 5 ans à ce moment-là. Donc, moi, je suis né le 11 octobre 1939, hein. Et je ne peux vous parler que de ce que petit garçon de 5 ans a été inscrit dans ma mémoire. Sachant que ce qu'un petit enfant de 5 ans voit n'a pas forcément une explication. Mais il y a cependant 5 petits événements sur ces 4-5 jours qui se sont passés, qui sont restés à moi et dont on m'a expliquer plus tard ce que ça signifiait. Donc je suis né le 11 octobre 1939, non pas en Alsace, mais en Dordogne, où ma famille a été évacuée du jour au lendemain, on les a mis dans des wagons, et heureusement, et aujourd'hui encore, et ça m'est arrivé plusieurs fois, de rendre hommage à ces gens qui étaient sur le quai de la gare, les Périgourdins, et qui ont dit « Vous êtes combien ?» 3-4, on a de la place, venez chez nous. C'est important de leur rendre hommage. Pourquoi? Parce que mes grands-parents ne parlaient même pas le français et on ne savait pas pour combien de temps on allait rester là-bas. Et donc on est revenu en septembre 40, on est revenu dans la maison familiale à Plopsheim. Plopsheim, c'est un petit village qui est au sud de Strasbourg. J'en arrive maintenant à ces images que j'ai gardées à jamais dans ma tête. La première, j'étais dans mon lit, en pleine nuit, une lampe de torche, quatre ombres menaçantes, ma maman paniquée, j'entends mon grand-père qui dit en allemand, « Vous allez sortir parce que j'étais soldat allemand avant vous et je ne me suis jamais comporté comme vous. » Et effectivement, ils ont obéi à mon grand-père. Ils sont sortis. En fait, c'était la Gestapo qui cherchait mon père, qui était fait prisonnier en Allemagne et qui a profité du chaos en octobre, novembre qui se passait en Allemagne pour s'évader. Travailler chez Junkers. Junkers, c'est la rue des Plaines des Bouchers. Et il avait fait transmettre à la résistance des plans de certaines pièces détachées de ses avions. Et mon père était caché pendant ce temps à l'intérieur de la grange avec une hache. Pour moi, petit garçon, c'était la terreur de voir ça. Il était tellement heureux les troupes avançaient. Et c'était lui qui écoutait tout le temps la BBC. Et moi, petit garçon, je faisais le malin, je les prenais par la main et je disais, venez dans la cave, il y a l'anglais qui est dans la cave. Parce que j'entendais mon père qui écoutait la BBC. Hein. Et il faut donc imaginer, quand ces troupes sont rentrées dans les différents villages, on avait dit aux habitants, fermez volets et portes. Mais mon père était tellement impatient qu'il a ouvert les volets en criant, vive la France! Et il a essuyé une rafale, dont il y a encore, j'ai ici la photo, les impacts sur l'embrassure de grès qui est autour de notre fenêtre, qui donnait sur la rue principale, devenue rue Général Leclerc. Hein. Nous, on était pendant ce temps dans la cuisine. Mon père est venu blanc, comme je le vois toujours, il tremblait en disant, oh, du pipe, j'ai failli laisser ma peau, alors je criais, vive la France. Nous, la cuisine donnait sur l'arrière du jardin. Et ça, c'est aussi un souvenir qui reste gravé en moi. Et notre arrière de jardin se terminait par une impasse. Et là, je vois un soldat allemand avec une arme anti-char énorme qui essayait de fuir. Et c'est là où j'ai vu la première fois ce que peut représenter, en quelque sorte, la peur d'un soldat. Le type, il tremblait littéralement, il essayait par tous les moyens de trouver une issue, il était pris presque dans une nasse. Et donc, bien que c'était un soldat allemand, je me suis dit, oh le pauvre, c'est ça la peur. Et puis finalement, il a disparu. Hein.
Et malgré son jeune âge, le sentiment de joie à la libération et la stupéfaction à la vue d'une jeune femme au crâne rasé.
Et puis, il y avait une image de bonheur. Ça, je me souviens, quand les troupes se sont arrêtées devant la maison, on a pu sortir. Alors j'étais assis sur les épaules de mon grand-père et c'était la joie. C'était vraiment la joie. Mon grand-père est sorti avec la bouteille traditionnelle de schnapps, avec des verres. Et la chose qui m'a le plus frappé, c'était les chars avec où je voyais juste une tête qui dépassait. C'était les deux conducteurs. Déjà à cette époque, les voitures qui passaient à Plopsheim étaient rares, mais alors un char avec deux types qui étaient là, je vois toujours cette image. Alors que tout le monde parle de la deuxième DB, etc. Et quand vous êtes un petit gamin comme ça. Et donc pendant ces deux jours, les gens passaient, les soldats passaient, et on était tous dehors, plein de bonheur. Et puis, il y a une Jeep qui passe, avec trois soldats et une fille de Plopsheim. Et au même moment, la voisine se met à hurler et à crier. Toujours est-il qu'une demi-heure après, cette même fille qui était dans la Jeep est repassée, crâne rasé. Et je dis à ma mère, qu'est-ce qu'elle a ? Elle n'est pas jolie. Elle a dit, elle l'a mérité. Et en fait, la femme qui a la maman, notre voisine d'en face qui a hurlé, qui a crié, venait de perdre un fils incorporé de force. Cette fille avait, avant la libération, c'est-à-dire une semaine avant, beaucoup d'amis allemands. La tradition la punition immédiate, était à cette époque de raser les femmes qui étaient accusées, je dirais, de ce type de comportement. Donc voilà les images que petit garçon, on voit et qu'on ne comprend pas. Tous les enfants qui sont témoins de ces moments de guerre ou de libération ont en eux imprégné des images de ce type.
René-Michel Roudloff, à propos de son témoignage et cette notion de transmission aujourd'hui.
Je pense que plus on avance en âge, plus la notion de transmission est importante. Parce qu'il y a une grande histoire, une histoire moyenne dont on fait des livres, et il y a la toute petite histoire qui vient témoigner de ce que les gens les plus humbles subissent dans ces conditions-là. C'est indispensable pour savoir d'où on vient. Sinon, comment voulez-vous savoir où vous allez? Et je crois que dans cette époque où on vit de plus en plus vite, il faut mettre ce point de ralenti un tout petit peu et se remémorer.
La même question à Jacqueline Knecht.
C'est Sarkozy qui avait dit il faut lire la lettre de Guy Môquet dans toutes les écoles. Et j'ai lu cette lettre, j'ai réussi à la lire. Et c'est là que ça m'a fait un choc. Mais Jackie, René, on ne savait rien, mais Jackie, lui, il faisait la même chose. Il faisait la même chose. Il a tué aussi et c'était pareil. Et c'est là que j'ai écrit au DNA. Et il y a une journaliste qui est venue chez nous à la maison, à qui j'ai tout raconté, montré ce que j'avais comme des documents aussi. Et qui m'a suivi après. Elle est venue avec moi à Chélard et elle a vu sur place ma rencontre avec le maire, etc. Et après coup, elle est allée même avec moi à Ingolstadt, Mönching, et après ça a suivi. Je suis fière d'eux. Et c'est là que j'ai commencé aussi, dans les écoles après. Donc ça, c'était, je trouvais ça important pour savoir ce qui s'est passé vraiment, hein, ce qu'on a vécu.
Un grand merci à René-Michel Roudloff et Jacqueline Knecht qui témoignent inlassablement devant les scolaires. Merci au lycée Hort de Strasbourg pour son accueil.